Bonjour à tous. Rendre hommage à Samuel Paty, c'est rendre hommage à la République. Lors d'une cérémonie ce matin au ministère de l'Éducation nationale, Jean Castex, le Premier ministre, a ajouté que le professeur assassiné était un serviteur de la République. Une plaque à la mémoire de Samuel Paty a été dévoilée. Plusieurs hommages auront lieu tout au long de la journée. Nous serons à Conflans-Sainte-Honorine dans un instant. Un nouveau geste d'Emmanuel Macron dans un contexte de crise entre la France et l'Algérie. Le président participera cet après-midi à une cérémonie officielle pour les 60 ans d'un massacre lors de la manifestation d'Algériens du 17 octobre 61. Emmanuel Macron s'apprête à reconnaître une vérité incontestable selon l'Élysée. Dans ce journal également, l'émotion toujours très vive au Royaume-Uni après l'assassinat hier du député conservateur David Amos. La police parle d'un acte terroriste. Et notre rendez-vous du samedi 13h avec Thomas Pesquet et son journal de bord depuis la Station Spatiale Internationale. La météo ensoleillée et douce, Jean-Michel Golinski, à la fin de ce journal, à 13h20, secret d'info, au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, on va vous parler d'un député au positionnement assez particulier. Meir Habib est si proche de Benjamin Netanyahou qu'il joue un rôle diplomatique qui irrite certains de ses collègues et même un ancien ambassadeur d'Israël en France.
Jacques Monin, secret d'info, à 13h20.
France Inter.
Un an jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, des hommages au professeur d'histoire et géographie ont lieu aujourd'hui dans le Val d'Oise où il vivait, dans les Yvelines où il enseignait et à Paris où sa famille sera reçue à l'Élysée. Ce matin, une cérémonie a donc été organisée au ministère de l'Éducation nationale en présence de la famille du professeur, cérémonie au cours de laquelle le Premier ministre Jean Castex, aux côtés du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, ont rendu hommage aux serviteurs de la République. Cet après-midi, hommage et recueillement à Conflans-Sainte-Honorine, au collège où enseignait Samuel Paty et où l'on retrouve en direct Sonia Princé. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Des cérémonies avec plusieurs temps forts et déjà beaucoup d'émotions.
Oui, des habitants, des anonymes passent depuis ce matin déposer des fleurs devant le collège où un registre d'hommage a été ouvert et où chacun peut écrire un message. La cérémonie doit débuter à 14h30. La principale du collège fera un premier discours, puis des professeurs prendront la parole pour évoquer le souvenir de Samuel Paty. Des élèves présenteront des travaux qu'ils ont réalisés l'an dernier sur le thème de la liberté. 300 personnes sont attendues, dont le ministre de l'Éducation nationale, pour ce moment de recueillement à huis clos. Pendant ce temps-là, tous ceux qui le souhaitent pourront se rassembler devant le collège où les discours seront retransmis. Les haut-parleurs sont déjà installés et ensuite une marche partira jusqu'à la place de la Liberté où un monument en forme de livre ouvert sera inauguré, symbole de la liberté d'expression.
Et puis ce matin, on l'évoquait, un hommage, Sonia, a été rendu au ministère de l'Éducation nationale.
Oui, où une plaque a été dévoilée en hommage au professeur assassiné. Il a eu raison de faire court sur la liberté d'expression, raison d'enseigner même ce qui est difficile, a dit Jean-Michel Blanquer lors d'une cérémonie en présence d'anciens ministres de l'Éducation nationale. On a vu par exemple Jean-Pierre Chevènement, Lionel Jospin, Najat Vallaud-Belkacem notamment, et aussi de nombreux représentants de l'Éducation nationale. Le Premier ministre Jean Castex a aussi prononcé un discours. Il avait reçu auparavant les parents et les deux sœurs de Samuel Paty pendant 20 minutes.
Un serviteur de la République a été assassiné. C'est pourquoi rendre hommage à Samuel Paty, c'est rendre hommage à la République. Les institutions et le gouvernement de la République, que dis-je, la nation tout entière, doivent lutter pied à pied contre le terrorisme islamiste, contre le terrorisme sous toutes ses formes.
Voilà Jean Castex, le Premier ministre, ce matin. Sonia Princé avec Gilles Gallinero en direct de Conflans-Sainte-Honorine. Un peu plus tôt dans la matinée, Jean-Michel Blanquer a annoncé que lors de la journée d'hommage hier, dans tous les établissements scolaires de France, 98 incidents ont été recensés. Le ministre de l'Éducation précise que ces incidents sont en très nette baisse par rapport à la minute de silence observée l'an dernier ou par rapport à tout ce qui s'était passé, a-t-il dit, après Charlie Hebdo et le Bataclan. Jean-Michel Blanquer précise qu'une suite sera donné à tous ces incidents. Et un an après, dans les collèges et les lycées, beaucoup de professeurs affirment s'être déjà auto-censurés dans leur enseignement des questions religieuses. Et sur ce point, il faut accompagner les enseignants pour qu'ils se sentent soutenus, souligne Jean-Louis Auduc. Il est membre du Conseil des sages de la laïcité.
Il faut
et le gouvernement commence à en prendre conscience, un immense effort de formation des enseignants et d'accompagnement des enseignants. C'est important qu'un enseignant qui va se trouver face à des difficultés se sente soutenu, sente qu'il y a toute une institution derrière lui. Dans le passé, ça n'a pas toujours été le cas et que des enseignants se sont sentis isolés. Le travail sur ces questions, c'est de contextualiser et d'aider les élèves à mieux comprendre la société dans le monde dans lequel ils vivent, en sachant qu'en enseignant, on peut se trouver en porte-à-faux avec les valeurs familiales. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ces questions, qu'elles soient en histoire, qu'elles soient sur la sexualité en SVT, vont faire maintenant l'objet d'une réflexion à l'occasion des concours de recrutement des enseignants.
Et au lendemain d'une manifestation des sapeurs-pompiers à Paris pour obtenir davantage de moyens, Emmanuel Macron s'est rendu ce matin au Congrès national des pompiers à Marseille, où il a annoncé qu'une plateforme unique des numéros d'urgence sera expérimentée dès 2022 à l'échelle d'une région. Cet après-midi, Emmanuel Macron assistera à une cérémonie commémorative de la répression du 17 octobre 61, il y a 60 ans, une manifestation pro-FLN rassemblant 30 000 Français musulmans d'Algérie, comme on les désigne alors, tournent au massacre. La police parisienne tire à balles réelles. Des manifestants sont jetés à la Seine, faisant bien plus de 120 morts. Selon les historiens, le pouvoir ne reconnaîtra pendant des années que 3 morts. Emmanuel Macron sera donc aujourd'hui au pont de Beson, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Un pont emprunté par les hommes, les femmes et les enfants du bidonville voisin de Nanterre pour aller à la manifestation. Le chef de l'État ne prendra pas la parole, mais il publiera un texte à l'issue de la cérémonie selon lequel il s'apprête à reconnaître une vérité incontestable, indique l'Élysée. Emmanuel Macron ira plus loin que la répression sanglante admise en 2012 par son prédécesseur François Hollande. Les communistes français ont été les premiers à dénoncer ce qu'ils considèrent comme un crime d'État. François Azincy, maire communiste de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, se bat depuis des années pour que la responsabilité de l'État français soit reconnu. Françoise, ainsi, joint au téléphone par Laurence Perron.
Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de reconnaître que la police française, aux ordres du sinistre Papon qui a fait déporter les enfants juifs sous Pétain, c'est la police française qui a perpétré ces crimes. Et donc, il est devoir du chef de l'État de les dénoncer tant que tel.
Est-ce que vous avez une explication pourquoi François Hollande n'a pas été jusqu'à condamner ce qui s'est passé avec la police française?
François Hollande a été dans ce domaine-là dans l'ambiguïté. C'est pas la première fois que les socialistes ont des positions troubles sur le sujet. Je me souviens qu'ils avaient, François Mitterrand avait demandé l'amnistie pour les généraux qui était coupable de crimes avec l'OAS. Donc il y a toujours une ambiguïté chez les socialistes parce qu'il faut savoir affronter les choses et parler franchement à notre peuple.
Donc vous considérez qu'effectivement, aujourd'hui, les esprits sont sans doute mûrs pour pouvoir poser les mots justes sur ce qui s'est passé ce 17 octobre 1961.
Absolument, mais il faut avoir le courage de le faire. Je crois qu'avec de la pédagogie, de l'explication, il n'y a pas de raison, y compris que les policiers n'en comprennent pas cette chose abominable qui s'est passée contre les patriotes algériens en octobre 1961.
François Azincy, le maire communiste de Tremblay en France. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson s'est rendu ce matin à l'église où le député britannique David Ames a été poignardé à mort hier. L'émotion est immense dans le pays. Ce meurtre a provoqué un choc au Royaume-Uni. La police parle d'actes terroristes. Un homme qui a agi seul et poignardé le député, sans que l'on sache pour l'heure ses motivations. En direct de Londres, on retrouve notre correspondant Richard Place. Bonjour Richard.
Bonjour.
Et aujourd'hui, le pays tout entier rend hommage aux parlementaires assassinés.
Oui, avec une image forte qui circule partout ici, le Premier ministre et le leader de l'opposition, côte à côte, costume noir et cravate, des bouquets de fleurs blanches à la main, Boris Johnson et Keir Starmer sont venus ce matin honorer la mémoire du député dans sa circonscription, là où il a été tué. Il était un peu plus de midi hier quand l'assaillant se jette sur lui. Cet homme âgé de 25 ans avait sagement attendu l'arrivée de l'élu conservateur. Il venait à la rencontre de ses administrés dans une église méthodiste. David Ames est poignardé à plusieurs reprises sous les yeux de témoins horrifiés. Les enquêteurs qualifient les faits d'attaque terroriste parlant d'une potentielle motivation liée à l'extrémisme islamiste. Le terroriste présumé a été interpellé quelques instants après l'arrivée des policiers sur les lieux, une arrestation qui s'est déroulée dans le calme. L'homme était resté à proximité du corps de sa victime. L'arme du crime a également été récupérée à ce stade. Aucun autre suspect n'est recherché, mais des perquisitions ont été menées dans deux appartements londoniens.
Richard Place, en direct de Londres, merci. Des combats meurtriers au Yémen, la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite affirme avoir tué plusieurs centaines de rebelles, près de 180 morts. Rien que pour la journée d'hier, depuis le début de la semaine, les combats semblent redoubler de violence autour de la ville de Marib, dans le nord du pays. Les informations qui arrivent laissent imaginer en tout cas une situation tendue entre, d'un côté, les rebelles houthis proches de l'Iran et qui avancent, mais au prix de pertes de beaucoup d'hommes, et de l'autre, les forces gouvernementales yéménites qui ripostent sans retenue. Nathanaël Charbonnier.
Les autorités parlent de centaines de morts côté rebelles houthis, mais les chiffres sont à prendre avec précaution, car dans cette guerre, la désinformation existe aussi. Ce qui est certain, c'est que depuis début février, ces fameux rebelles houthis que l'on dit soutenus par l'Iran gagnent du terrain avec un objectif, prendre la ville de Marib, ville située à un endroit stratégique, comme l'explique Franck Mermier, anthropologue et directeur de recherche au CNRS.
C'est un bastion gouvernemental extrêmement important à l'est du pays qui donne accès aux ressources pétrolifères parce qu'il y a un champ pétrolier gazier. Donc effectivement, la prise de Marib par les houthistes serait catastrophique pour le camp gouvernemental, pour l'Arabie Saoudite aussi. Et donc c'est pour ça que l'Arabie Saoudite redouble ses efforts pour empêcher la perte de cette ville, où il y a peut-être, on parle de 2 millions d'habitants, parce que c'est une ville qui concentre les réfugiés de toutes les provinces du Yémen.
Guerre violente autour de Marib, mais guerre d'usure aussi avec des attentats ailleurs dans le pays attribués aux rebelles. C'est ainsi que dimanche dernier, dans la deuxième ville du pays qui accueille le gouvernement yéménite, l'explosion d'une bombe a fait 6 morts. Elle visait le gouverneur de la ville ainsi que le ministre de l'Agriculture.
Nathanaël Charbonnier et l'ONU appellent à l'arrêt des combats dans la région de Marib où l'aide humanitaire n'arrive plus. En France, la vague et le mot dièse MeToo a 4 ans et continue de toucher de nouveaux secteurs. Le mouvement déclenché dans le monde du cinéma ébranle aujourd'hui le théâtre français et le hashtag MeToo Théâtre connaît une accélération dans le spectacle vivant. Une manifestation a eu lieu ce matin au Palais Royal à Paris. Sandrine et toi, Andeg.
Mon parcours est jalonné d'agressions sexuelles, de remarques sexistes, raconte Sophia. Cette comédienne et artiste de rue a témoigné il y a quelques jours sur Twitter.
J'ai par exemple une anecdote qui a été relayée en coulisses. En fait, il y avait un comédien qui incarnait un rôle de valet lubrique et il se permettait, parce qu'il incarnait ce rôle, d'agresser sexuellement, d'embrasser les comédiennes. Et c'était excusé parce que c'était son état, c'était son rôle et que c'était son personnage.
Dans le milieu théâtral, c'est particulièrement difficile de parler et d'être entendu, dénonce Eina du collectif Héroïne 95.
C'est un petit microcosme, c'est très difficile de briser l'omerta parce que tout le monde se connaît. Quand on est au cœur de ces institutions, on ne peut pas prendre la parole et dénoncer ce qui s'y passe, sinon notre carrière s'arrête.
Et pourtant, les victimes sont nombreuses, complète Agathe Charnay, l'une des fondatrices du collectif MeToo Théâtre.
On reçoit par mail, sur les réseaux, des centaines de témoignages. On prend avec beaucoup de soin et de précaution cette parole. On n'est pas là pour lancer une chasse aux sorcières. L'objectif, c'est qu'on se rende compte de manière quantitative de l'ampleur du phénomène et qu'on y réagisse.
L'une des solutions, plus de parité sur scène et dans les institutions culturelles.
4, 3, 2, 1.
Et comme chaque samedi, nous passons quelques minutes dans l'espace pour notre rendez-vous avec Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale. L'astronaute doit rentrer début novembre sur Terre et la semaine a été occupée par divers travaux et expériences, dont le fameux blob. De quoi s'agit-il? Sophie Becherel, vous qui êtes en liaison avec Thomas Pesquet chaque semaine pour son journal de bord.
Le blob, c'est un organisme vivant plutôt étrange. Il est composé d'une seule cellule, souvent de couleur jaune, et si on s'occupe bien de lui, en gros si on lui donne à boire et à manger, et plutôt à l'abri de la lumière, eh bien ce blob se développe sans s'arrêter. Il s'étale, pourrait-on dire. Est-ce qu'il grandit de la même façon s'il est privé de gravité? C'est tout l'objet de cette expérience proposée par la chercheuse du CNRS Audrey Dussutour, une grande spécialiste des blobs. Thomas a élevé un blob dans la station, les enfants ont élevé le leur dans leur classe, et à l'arrivée, arrivée, ils vont comparer les différences de comportement. Pour les écoliers, c'est un premier contact avec la démarche scientifique. On émet des hypothèses, on observe et on explique ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Voilà qui m'a incité à demander à Thomas Pesquet s'il avait lui-même un souvenir de sa toute première expérience scientifique, celle qui tout à coup éclaire votre esprit.
C'est marrant, j'ai des souvenirs assez précis de TP, de travaux pratiques en classe. Ça remonte assez loin, ça remonte en quatrième. Les cours de technologie, bon, on faisait des circuits imprimés. Et je ne sais pas pourquoi, mais apparemment ça m'a marqué parce que je me rappelle bien. Je me rappelle bien aussi parce que je réussissais pas tous les coups, j'étais plutôt bon à l'école. Mais dans ces classes-là, j'étais pas génial. Je suis pas extrêmement manuel. Donc j'avais tendance à rater, je sais pas, c'est peut-être pour ça que ça m'a vexé que je m'en rappelle, j'en sais rien. Mais je me rappelle de ça, ouais. Je me rappelle une dissection, une grenouille ou une souris, je sais plus, aussi au lycée, c'est un peu impressionnant. Je me rappelle des TP d'électricité, je me rappelle des TP de chimie, donc je sais pas, ça a dû quelque part me parler, c'est peut-être pour ça que j'ai pris les chemins que j'ai pris pour en arriver là.
Cette semaine, la NASA vous a donné un sacré job, remettre à niveau le réseau de la station, ça vous a, je crois, pas mal occupé avec Mark Vandenhei.
Ça a l'air facile sur Terre, on a l'impression qu'il faut juste changer sa box, un branchement USB ou électrique. Une prise de téléphone, c'est fini. Nous, c'était pas du tout ça. C'était vraiment, on a ouvert des racks, on a démonté des structures en métal pour accéder à des routeurs qui étaient derrière. On n'avait pas l'accès, les outils pouvaient pas arriver, c'était pas éclairé. On a ajouté, je crois, presque 400 mètres de câbles, avec des câbles de 10 mètres, des câbles de 5 mètres, etc. On a fait des centaines et des centaines de connexions, déconnexions. C'était vraiment la forêt de câbles, la jungle. On était perdu dans les racks, il y a des photos assez impressionnantes où on est vraiment entouré de câbles. On peut même pas fermer les portes des racks tellement il y a des câbles partout. Donc un peu Frankenstein, Frankenstation, comme disait mon collègue Mark Vandenhei. Mais grâce à ça, maintenant, on a un réseau plus rapide et plus robuste. Donc on est content. Ce qui est drôle, c'était que le précédent upgrade, on va dire, c'était déjà moi qui l'avais, enfin moi, nous, qui l'avions fait en 2016. Au moins, j'avais l'expérience de la première fois. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert.
Quel bilan tirez-vous de l'expérience Foam ? Foam, pour mémoire, ce sont des emballages qui se mangent.
J'en suis super content de cette expérience-là parce que c'est vraiment un feedback direct de ma première mission. J'ai dit, voilà, la gestion des emballages, c'est le cauchemar à bord de la station spatiale parce que on a, évidemment, les équipements sont précieux, fragiles, montent pour être protégés des chocs, des accélérations du décollage. Donc, ce sont beaucoup de mousse autour d'eux, des choses comme ça. Papier à bulles. Et puis quand on arrive à bord de la station, ben on peut pas acheter ça n'importe où, donc faut le remettre dans le vaisseau qui lui devient un peu poubelle. Donc quelque part on remet la forme en mousse, sauf qu'elle a pas l'objet à l'intérieur, mais ça prend quasiment le même volume dans le vaisseau, donc on n'a rien gagné quoi. Donc c'est extrêmement frustrant quand on essaye de gérer les poubelles de la station. Moi j'ai dit mais il faut absolument arrêter ça, soit il faut trouver un moyen de pas protéger les expériences en les montant. Diminuer les plastiques, la mousse, etc. Ou alors, il faut carrément faire quelque chose qui se mange, parce que comme ça, on solutionne le problème du ravitaillement. Et en fait, je l'avais dit un petit peu en rigolant au début, et puis finalement, on a regardé l'idée, et puis le CNES s'en est saisi. Et aujourd'hui, voilà, on a cette expérience. Bon, on est encore une démonstration technologique, hein, c'est pas la majorité des emballages à bord de la station, mais qui marche. Donc, on n'a pas mangé le pain d'épices officiellement, on n'a pas le droit. Donc, on va dire qu'on l'a pas mangé. Mais si on l'avait mangé, on pourrait dire qu'en plus, c'est plutôt comestible et plutôt pas mal.
Voilà Mission Alpha, le carnet de bord de la semaine de Thomas Pesquet avec Sophie Becherel, à retrouver sur franceinter.fr. Le choix culturel musical pour ce week-end. Avec le pianiste Lucas Debargue, il consacre un album au compositeur polonais Miłosz Magin. Ses œuvres sont restées confidentielles. Pourtant, Magin s'est installé en France dans les années 60. Il est mort à 60 ans en 99 lors d'une tournée en Polynésie française. Et Lucas Debargue s'est pris de passion pour sa musique lorsqu'il était étudiant, Stéphane Capron.
Souvent, à la fin de ses concerts, au moment des bis, Lucas Debargue joue un morceau de Miłosz Magin. Sa petite fille, Alexandra, est tombée sur un enregistrement pirate et a contacté le pianiste. Ainsi est née l'envie de consacrer un album à ce compositeur méconnu. Lucas Debargue s'est associé à l'ensemble du violoniste Gidon Kremer pour faire découvrir l'univers de Magin.
Des personnes diront que c'est de la musique assez cinématographique. Pourtant, c'est une musique qui marche très bien sans images parce qu'elle génère elle-même ses propres images. Donc, la trouveront peut-être trop facile d'accès. Pourtant, elle réserve beaucoup de subtilités à qui sait bien tendre l'oreille. Des subtilités rythmiques, des subtilités harmoniques. Maguine, c'est quelqu'un qui est très inspiré mélodiquement, donc il est capable d'écrire des mélodies qui restent en tête. Ce n'est pas une musique dont il faut avoir peur. Bien souvent, avec la musique contemporaine, on ne sait pas trop dans quel château d'ogre on va tomber quand on écoute de la musique contemporaine. Mais Maguine n'est pas un ogre. C'est quelqu'un de très hospitalier.
L'album ne donne qu'un tout petit aperçu de l'œuvre de Maguine avec des pièces qui n'avaient jamais été enregistrées. Et lorsque Lucas de Bargue est seul au piano, on peut ressentir toute la profondeur de cette musique.
Voilà la musique de Miouche Maguine par Lucas de Bargue sur le label Sony Classico. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Jean-Michel Golinski.
Période de temps très calme ce week-end avant l'installation progressive d'une ambiance plus perturbée en début de semaine, mais dans des températures qui vont partout monter au-dessus des normales pour la saison. Pour l'heure, cet après-midi, les valeurs dans les moyennes vont afficher 15 à 16 degrés de Lille à Mulhouse, 17 en Rhône-Alpes et sur l'île de France, 18 sur le centre Val-de-Loire et la Bretagne, 21 degrés sur le Gard, la Gironde, la Côte d'Azur et en Charente, 23 sur la Corse et le Roussillon. Avec cet après-midi, du soleil pour tout le monde, une fois les brouillards et nuages bas dissipés, leur évolution sera parfois plus lente, notamment près des Pyrénées et du centre Val-de-Loire à la vallée de la Saône. Des grisailles que l'on va fréquemment retrouver demain matin avec une évolution vers le soleil, sauf sur la façade atlantique où le ciel va franchement se charger l'après-midi.
Jean-Michel Golinski de Météo France.